1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19 hey, the Motor City is burning. That ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19 hey, the Motor City is burning, y'all. That ain't right. There was a man, voice of a people, standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light. 'Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19 hey, the Motor City is burning, y'all. With three pieces of black licorice in his hand, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was the one, shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street lights. 'Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19 hey, the Motor City's burning.
17h à Paris, 5h en temps universel.
Andréanne Mélard.
RFI Matin commence, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue au programme ce matin, notamment le premier épisode d'une enquête menée avec une dizaine d'autres médias et le consortium Forbidden Stories. Enquête sur le Mozambique et ça commence dans le Cabo Delgado, cette région du Nord au riche sous-sol, théâtre de la violence des Chebabs. Et vous allez l'entendre, ressources minières et violences sont étroitement liées. Sur place, on en parle dans votre journal, Julien Coquel-Rohem, bonjour.
Bonjour Andréanne, à la une également des milliers de manifestants en colère devant des dizaines de tribunaux et le ministère de la Justice hier soir en France. La polémique autour de l'affaire Liana continue. Reportage dans un instant. À la une également l'accalmie entre l'Iran et Israël. Et Donald Trump qui dit ce matin être dans les derniers efforts en vue d'un accord à Téhéran. Et puis une victoire 3 buts à 1 à une semaine de l'entrée en lice en Coupe du Monde de football. L'équipe de France victorieuse hier soir face à l'Irlande du Nord, mais pas rassurée pour autant à la fin de cette édition.
Sous pression et la colère qui s'installe.
5 jours après la découverte du corps de la jeune Liana en France, la polémique qui continue alors que le principal suspect du meurtre n'avait pas été inquiété malgré plusieurs plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Le ministre de la Justice continue de se défausser sur l'institution. Il ne nous a manqué ni de moyens ni de lois, a déclaré hier Gérald Darmanin qui menaçait il y a quelques jours de sanctions contre les magistrats et qui a convoqué l'ensemble des procureurs généraux ce lundi. Qui est responsable du système? Sinon vous, l'a interpellé hier matin le président de l'Union syndicale des magistrats dans un courrier dénonçant notamment le manque de budget pour la justice. Colère aussi dans la rue. Hier soir, des milliers de personnes se sont rassemblées aux quatre coins du pays et notamment à Paris. Reportage Marius Roland.
Des centaines de manifestants présents malgré la pluie avec leurs slogans, leurs pancartes, notamment celle de Paul.
Sur ma pancarte, il y a écrit « J'ai 11 ans comme toi, Liana, plus jamais ça, faut plus jamais que ce qui est arrivé à Liana ne se reproduise. »
Pour sa mère Sabine, il fallait que son fils soit présent.
Je suis là avec mon enfant parce que ce qui est important comme message, c'est que les enfants, quand ils nous parlent, on doit les écouter, on doit les croire et on doit les protéger.
Protéger les enfants en donnant plus de ressources à la justice, une revendication portée par le collectif féministe Nous Toutes, dont fait partie Célia Lévy.
Il faut des moyens pour la justice, pour pouvoir écouter la parole des enfants, parce que les magistrats et le personnel de justice est totalement débordé.
À quelques kilomètres de là, malgré l'interdiction de la préfecture, des manifestants se sont également rassemblés devant le ministère de la Justice. Claire Bourdi est fondatrice du collectif enfantiste engagé contre les violences faites aux mineurs.
On veut plus de petites mesurettes, on veut une vraie volonté politique. On veut aussi l'application de la loi cadre contre les violences sexuelles.
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a fixé au 14 juillet la date limite aux magistrats pour recenser intégralement les 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs en cours afin d'éviter une nouvelle affaire Liana.
Marius Roland et le gouvernement sous pression. Le Sénat doit auditionner aujourd'hui les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Laurent Nunez et Gérald Darmanin. Le Premier ministre Sébastien Lecornu organise lui une réunion ce matin pour annoncer de nouvelles mesures.
RFI 8h04 au Caire.
La capitale égyptienne qui accueillait ces derniers jours de nouvelles discussions sur la mise en œuvre du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, alors que malgré la trêve conclue en octobre 2025, les frappes israéliennes continuent de tuer les Palestiniens de l'enclave. L'armée israélienne continue aussi d'avancer, alors que Benjamin Netanyahou lui a ordonné de prendre le contrôle de 70% du territoire, au-delà de la ligne convenue au moment de l'accord. Les ordres d'évacuation continuent de semer la panique parmi les Gazaouis. Reportage sur place de notre correspondant Rami Almeghari avec Frédéric Misselin à Jérusalem.
Comment se déroule une évacuation ordonnée par l'armée israélienne à Gaza? Eh bien, en général, l'avertissement s'adresse à tout un quartier, raconte Mohamed, qui vit à proximité de Nousserat. Il n'y a pas de localisation précise. Jeudi dernier, à 9h du soir, Mohamed a compris qu'il fallait partir immédiatement.
Ils ont prévenu les voisins au moment du dîner à peu près. Ils leur ont dit de quitter la zone. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas désigné de maison précisément. Ils n'ont pas dit les maisons de un tel ou un tel doivent être évacuées.
Pas le temps d'emporter quoi que ce soit. Il faut se mettre à l'abri à proximité et attendre la frappe israélienne. Tiab, père de famille déplacé à de nombreuses reprises, a vécu ce moment d'angoisse encore une fois.
Quand nous sommes revenus après le bombardement, il n'y avait plus rien, ni la tente, ni nos affaires. Tout est détruit, tu vois. Il y a des tas de pierres qu'on essaie de déblayer. Nous travaillons à nettoyer, on essaie de se débrouiller.
Yasser, un commerçant du quartier, s'emporte lorsqu'on lui demande si cette situation lui rappelle la guerre.
Ça ne nous rappelle pas la guerre, c'est la guerre. Et ce n'est pas terminé. Chaque jour, il y a des nouveaux morts des bombardements à tel ou tel endroit, dans toute la bande de Gaza.
Plus de 960 Gazaouis ont été tués depuis le début de la trêve. Rami Al-Megari dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Dans la région également, l'accalmie après les premiers affrontements directs entre Israël et l'Iran. Depuis le début du cessez-le-feu le 8 avril, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, les deux camps ont finalement annoncé hier la cessation pour l'heure des hostilités après un appel en ce sens de Donald Trump, mais le ton reste martial. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël ripostera avec force à toute nouvelle attaque iranienne. Le commandant des forces armées iraniennes prévoit lui des actions bien plus sévères en cas de nouvelle agression israélienne, y compris dans le sud du Liban. Donald Trump dit à l'instant être dans les derniers efforts en vue d'un accord avec Téhéran.
Le regain de tension d'hier qui a de nouveau fait grimper les prix du pétrole.
Alors que depuis fin février, la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Hormuz ont aussi provoqué une explosion des prix des engrais. Les ministres de l'agriculture du G7 se sont réunis hier pour réfléchir aux moyens de soutenir les paysans concernés. L'Union européenne a déjà promis le déblocage de plus de 200 millions d'euros. Situation urgente, notamment en Italie, où les agriculteurs, très dépendants des engrais importés, sont en première ligne. Reportage Anne Verdaguet.
La ferme de Cesare Fedeli est à seulement quelques kilomètres de Milan, mais ses rizières s'étendent à perte de vue sur près de 200 hectares. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le céréalier qui cultive aussi du maïs et du fourrage a vu le coût de ses engrais doubler.
Alors, si l'on parle uniquement de l'urée, avec 200 hectares en riz et 100 hectares en maïs, il y a une augmentation des dépenses d'environ 35 000 à 40 000 euros. En ce moment, toute la filière est en difficulté. C'est comme si on nous avait privé d'eau ou d'oxygène, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Nous sommes asphyxiés. Le peu de gains des années précédentes est en train d'être drainé par ces augmentations et notre peur est de produire à perte.
La plaine du Pô, où règne une agriculture intensive, est particulièrement touchée par cette hausse du prix des engrais. Le syndicat agricole Col di Reti multiplie les rassemblements en Italie pour tirer la sonnette d'alarme. Luigi Simonazzi, responsable économique de Col di Reti, région Lombarde.
Col di Reti a estimé qu'il pourrait y avoir une augmentation des coûts sur les productions agricoles de 30% en Italie, ce qui inclut les coûts des fertilisants et de l'énergie. C'est ajouté à cela une taxe carbone aux frontières, car l'urée et le nitrate d'ammonium, qui sont les plus utilisés dans les engrais, sont très énergivores. C'est un coût supplémentaire pour les agriculteurs qui vient s'ajouter à celui de la guerre.
L'Union européenne a aussi suspendu pour un an les droits de douane sur les importations d'engrais, une maigre consolation pour les agriculteurs italiens, dont certains se tournent déjà vers les légumineuses comme le soja, moins gourmande en fertilisant. Anne Verdaguet, Milan, RFI.
Quand la confiscation des ressources naturelles nourrit le terrorisme, le premier volet ce matin de notre série d'enquêtes sur la situation au Mozambique.
RFI mène cette enquête avec une dizaine de médias et le consortium de journalistes Forbidden Stories pour raconter la violence qui dévore le cinquième pays le plus pauvre du monde où le régime impose un blackout de l'information. Nous partons ce matin pour commencer dans le Cabo Delgado, région du nord du Mozambique, en proie depuis près de 10 ans aux attaques meurtrières des terroristes Shebab et où la captation des richesses du sous-sol alimente donc la crise. Reportage Gaël Lalex.
Assis devant une carte, Vashku King, membre de l'organisation de défense des droits de l'homme Kundeleya, dessine avec son doigt les poches d'insécurité du Cabo Delgado.
C'est le long de la route N380 que se trouvent les endroits les plus vulnérables. Là où se trouvent les mineurs artisanaux, près du complexe de rubis et d'or entre Montepuech et Nkwabe. Ce sont les endroits les plus problématiques.
La région de Montepuech fournit près de 80% des rubis du monde entier. La plupart sont extraits par Montepuech Ruby Mining, filiale de Gemfields Limited. En 2019, le géant minier britannique a versé plus de 6,5 millions d'euros à 273 mineurs artisanaux en échange de l'abandon de leurs plaintes. Ils accusaient les agents de sécurité de la mine de meurtre, coups et blessures, détentions arbitraires et abus sexuels. Des pratiques encore courantes dans la région, selon Ali Caetano du Centre pour la démocratie et les droits humains.
Il y a des tortures, des détentions illégales, des morts. On a des cas d'enfants impliqués dans les mines qui ont subi des abus. Les rubis de Montepuech alimentent le discours des terroristes. Les Chebabs s'en servent d'arguments pour radicaliser les gens.
Montepuech Ruby Mining est aussi détenu à 25% par le général Raimundo Pachinuapa, cadre du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. À cette heure, aucune enquête n'a été menée au Mozambique sur ces événements. Gaël Alex de retour de Pemba, Nairobi, RFI.
Et le premier volet de notre enquête au Mozambique avec le consortium Forbidden Stories à retrouver en longueur sur RFI.fr.
À la une également, Léon XIV qui poursuit son voyage en Espagne.
Il était hier à Madrid pour s'exprimer devant le Parlement et promettre des efforts supplémentaires pour lutter contre les violences sexuelles dans l'Église catholique. Il sera aujourd'hui à Barcelone où il doit notamment inaugurer la dernière tour de la Sagrada Familia, œuvre de l'architecte Antoni Gaudí en chantier depuis bientôt 150 ans. Le quartier autour de la basilique s'organise devant des habitants partagés. Élise Gazangel.
Tout est enfin prêt. Autour de la Sagrada Familia, des pancartes annoncent cette triple journée historique qui marque le centenaire de la mort d'Antoni Gaudí, l'inauguration de la dernière tour centrale et sa bénédiction par le pape. Manuela Pombo, septuagénaire.
Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est qu'on a déjà beaucoup de monde là et le quartier est saturé. Moi, je vis juste là. Il y a tellement de touristes. Et avec le pape, je suppose qu'il y en aura encore plus.
Même si elle n'attend pas le pape, elle est tout de même heureuse de voir la nouvelle tour.
Je la vois au-dessus là et je suis très contente. La Sagrada Familia, je l'aime beaucoup parce que c'est un symbole de Barcelone et de mon quartier partout dans le monde.
De l'autre côté de la basilique, Lourdes Pérez, elle, observe satisfaite le parc tout juste nettoyé.
Come and see, I'll drop some scriptures and it feels like R&B. Oh, I know that key, I'm coming for thee. They won't give you knowledge if they know it sets you free. Oh, let me repeat, nigga, you is on a leash. You can only feel it if you move, it's not to see. Oh, not DC, your royalty. The vision's universal peace and really quality. I'm a buffalo soldier. You comply with them. How many more times crying and hollering? This line is meant solely for my people. Ain't nobody but your damn self is gonna free you. Been a panther since in preschool. Not because I want, but cause I need to. Rogers is the last name, but that shit don't belong to me, fool. See, I deep them trees' roots. The one with all them weird fruit that fall on like my tears do. But I will not be fearful. I'd rather be fearful. Who I am than living on my knees trying to appeal to you. How should we sing songs of the Lord here in a foreign land? Whether in Berlin, Babylon, or in New Orleans. Soldier, J'ai la grâce.
Tout est prêt techniquement pour que les émissions aient lieu. Les autorités peuvent évidemment décider ou bien de nous brouiller ou même de nous arrêter. Dans ces cas-là, nous ne faisons évidemment pas le poids, mais pour plein de raisons, il n'est pas sûr qu'ils le fassent.
Principe actif. Principe actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.